Après la pause pour ce 7e radio barque de la saison, on va revenir sur Murena, le projet Murena, enfin projet d'ailleurs qui se concrétise chaque jour, ou alias le musée de la romanité. Alors Michel, tu poses la question. Oui, le chantier il y est, le bâtiment il est en construction, clairement, mais quel projet ?
Oui, c'est
que veux-tu dire par là ?
Je veux dire par là que Jean-Claude, que on voit monter un bel objet architectural, hein, et signé par une signature par un monsieur qui est connu dans le monde entier, ce qui déjà permettra de faire venir, risque d'attirer, ou attirera plutôt, des visiteurs, ne serait-ce que pour voir l'objet lui-même, indépendamment du contenu.
Quand on va dire c'est celui qui a fait le viaduc de Millau, les gens vont venir, ils vont dire mais quelle ressemblance entre ce musée et le viaduc de Millau.
Alors, et donc, mais il y a un circuit touristique, hein, architectural, hein, ça existe. Il y a des gens qui ne font que
qui ne visitent que
des objets parce qu'ils sont signés par des grands architectes. Donc, bon point. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, Jean-Claude, et je ne dis pas ça parce que, par souci, voilà, de systématiquement faire porter des regards critiques, le problème aujourd'hui, c'est qu'on n'a rien, on n'a aucune information sur ce que sera son contenu. En autre terme, ce qu'est la stratégie des gestionnaires d'aujourd'hui du musée, le gestionnaire étant la région. Même si, en fait, l'établissement qui va gérer le fonctionnement du musée associera l'agglo, la région, le département,
peut-être la ville un jour, je n'en sais rien.
Force est de constater que ni du côté de la région, ni du côté de ce que est aujourd'hui la convention associant ces partenaires-là, on a d'informations sur ce que sera le contenu de ce projet. Quelle stratégie pour le Murena ? Peut-on,
alors, on sait quand même qu'on va y mettre les vieilles pierres romaines qui sont stockées notamment à la Mourguier.
C'est tout. La seule chose que les Narbonniers sachent, c'est qu'effectivement, les pierres stockées, faites dans le, je dis stockées, mais à bon escient, quoi, hein, stockées dans le musée lapidaire, l'église La Mourguier, seront transférées au Murena. Point. Pour le reste, quelle est la stratégie faite des gestionnaires aujourd'hui de ce musée pour justement le faire rayonner et attirer le maximum de touristes sur ce site ? Rien, néant. Alors, je pose des questions. Aujourd'hui, un musée de la romanité est en train de sortir lui aussi de ses, non pas des eaux, mais de son environnement, lui romain.
À Nîmes. À 130 km d'ici.
À 130 km d'ici. Je rappelle à nos auditeurs que le département du Gard, lui, contrairement au département de l'Aude, est doté d'un patrimoine romain qui fait qu'aujourd'hui, le pont du Gard est le premier site visité de l'ensemble de la région Occitanie. Le pont du Gard. Quand deuxième position arrive, la ville de Nîmes avec ses arènes, enfin, sa maison carrée, en fait, etc. Tout près, mais je ne compte pas, il y a Arles. Combien de kilomètres ?
Ah oui,
avec 25, 30
avec des
kilomètres.
Des belles arènes.
Avec de belles arènes, en fait, romaines. Ouais. Il n'y a pas que les arènes, il y a aussi les Aleskis, bon, etc. Bref. Et alors, quel type de coopération est envisagée par le musée de Murena, de Narbonne, avec ce type de potentiel pour faire en sorte qu'il y ait une complémentarité en termes de communication ?
Bon, en fait, tant que les musées n'existent pas, peut-être est-il trop tôt pour le...
Mais enfin, quand même, l'inauguration, elle est prévue quand ? Elle est prévue en 2008 en 2018
18-19, peut-être.
Sauf si elle a pris du retard. Enfin, en tout cas, ce qui était pris, 10 minutes.
Voilà, donc, en tout cas, une interrogation.
Et quand je dis ça, je ne suis pas le seul, en fait, à le penser. J'ai interrogé, il se trouve que certaines me lisent, d'autres font partie de ceux que je côtoie, des gens qui s'intéressent en fait, à la culture en général, en fait, l'antiquité romaine en particulier, ils font tous le même constat. Certains me disent, mais c'est pas possible, on va pas continuer comme ça.
Ils se posent les mêmes questions.
Des gens qui ont l'oreille pourtant de Madame Delga, en fait. Je ne donnerai pas des noms ici. Et je me dis, mais quand même, est-ce que quelqu'un a pris l'initiative de faire travailler une société d'ingénierie, que sais-je, quoi, pour justement poser les termes de cette stratégie? Parce que, est-ce que, entre autres, est-ce que ce musée va s'adosser en fait, à un potentiel scientifique qui existe dans la région ou ailleurs, aux États-Unis? Il y a de gros laboratoires.
Autant de questions qui ne sont pas posées et qui
quand même urgent à l'être. Et qui ne sont pas seulement les miennes, encore une fois, Jean-Claude, mais qui sont celles aussi de nombreux partenaires et d'intellectuels, je mets des guillemets autour d'intellectuels, qui s'intéressent à la question, de sorte que la question, que je me pose, Jean-Claude, est de même nature que celle que je me suis longtemps posée, que je me pose encore aujourd'hui, pour le théâtre. Voilà un objet qui, comme le théâtre, est posé dans un environnement...
Le théâtre, c'est le label scène nationale, il a fonctionné Il fonctionne comme tel.
Non, mais laisse-moi finir.
Avec des problèmes.
Laisse-moi finir, Jean-Claude. C'est que cet objet, il est hors sol, si je puis dire, hors sol en termes intellectuels et culturels, social, par rapport à son environnement immédiat, qui est la ville de Narbonne et tous ses acteurs. Enfin, pour là, du coup, ça intéresse notre invité d'aujourd'hui, M. Aldebert, c'est que ces objets-là, ils sont complètement coupés, eux aussi, indépendamment de l'environnement à la fois culturel et social de Narbonne. Ils sont complètement coupés urbainement, hein, du cœur de ville, en fait, auquel ils devraient être reliés de manière à fluidifier, effectivement, les flux de circulation entre les touristes qui vont visiter l'espace monumental de Narbonne, qui est le quatrième site le plus visité de la région Languedoc-Roussillon, pour les drainer, effectivement, vers Murena, en fait, et le théâtre. Qui pose là des problèmes de gestion urbaine de la ville de Narbonne et d'aménagement considérables. Je termine là-dessus, simplement pour dire que c'est pas demain la veille qu'effectivement on aura, comment dirais-je, au rythme où vont les choses, une vision en fait globale et intégrée de ce que, sur la ville de Narbonne, les différents acteurs entendent faire, hein, pour que le potentiel culturel qui existe soit valorisé comme il devrait l'être.
Oui, bon, cela dit, ce théâtre, il existait déjà bien avant l'agglomération, et peut-être que certaines choses auraient pu être faites il y a 10 ou 15 ans.
Bien entendu.
Par des précédents maires de Narbonne à l'époque où ils avaient la main mise sur le théâtre.
Bien entendu, Jean-Claude.
Elles n'ont pas été faites
non plus. Bien sûr. Tant que les Narbonnais n'auront pas compris que l'axe culturel hein, de notre ville, hein, part de la médiathèque, va jusqu'à Murena en passant par l'espace monumental, le grand espace monumental du centre-ville, ils n'auront rien compris pour ce qui concerne l'aménagement urbain et culturel de cette ville.
Voilà. Alors, un axe culturel, il va falloir le flécher sérieusement, celui-là. Avant de marquer une deuxième pause, un petit mot quand même. Tu reviens sur le manque, ce que tu appelles un manque de solidarité, de redistribution dans l'agglomération.
Oui,
j'avais fait
un billet sur le sujet et chroniqué là, il n'y a pas très longtemps sur cette affaire.
Tu avais souligné certains, ce que tu as appelé des égoïsmes municipaux.
Oui, j'avais fait observer surtout qu'il y avait tout un tas de clichés comme ça qui circulaient dans l'esprit de, non seulement des habitants de Narbonne, mais aussi de certains élus communautaires, en fait, Jean-Claude, et qui, voilà, j'avais posé des questions toutes simples, hein, quelle est la principale dépense de fonctionnement de l'agglo? Pouf! Deux conseillers communautaires dont je tirais le nom m'ont dit, mais charge de personnel. Ben, faux. Hein, c'est pas charge de personnel. La première dépense en fonctionnement, c'est la redistribution fiscale, la fiscalité perçue par l'agglo aux communes, hein, qui représente 62% des recettes fiscales nettes de l'agglo, ce qui est considérable. Donc, j'avais fait cette observation-là.
Oui. Bon, cela dit, ça ne te satisfaisait pas parce que...
Effectivement, parce que c'était la marque même, hein, du fait que cet agglo ne fonctionnait pas, ce qui n'est pas effectivement quand même, il faut le dire ici, dans ces jeunes institutionnels, ne fonctionnait pas pas du tout, hein, au principe de solidarité fait intercommunale, hein, qui lui effectivement implique un minimum de redistribution, parce que je faisais le constat à l'époque, je l'avais dit ici, hein, que les communes les plus riches de l'agglo, avant qu'elles ne naissent, hein, étaient toujours aussi riches aujourd'hui, voire même plus qu'elles ne l'étaient avant, hein, ce qui veut dire qu'effectivement la redistribution est quasiment nulle de ce point de vue-là, et que on pourrait, même si les mécanismes sont très peu nombreux, en utiliser certains pour opérer un minimum de redistribution entre les communes les plus riches et celles qui le sont moins. Par exemple, hein, il existe, l'agglo a des fonds d'intervention, des fonds de concours, hein, pour être plus précis en termes juridico-institutionnels. Eh ben, ces fonds de concours, par exemple, plutôt que de distribuer, fait, aux différentes communes de manière parfaitement égalitaire, hein, ce qui ne contribue à l'inégalité, fait, des situations fiscales en tout cas, pourrait établir un règlement qui permettrait effectivement de moduler le taux d'intervention dans ces communes en fonction de leur richesse fiscale.
Seulement, il semble qu'il n'y ait pas aujourd'hui la volonté politique de le faire.
Pas du tout.
C'est un regret sur lequel tu reviens. Tu auras d'autres façons encore de le regretter à ce même micro. On marque une deuxième pause.